it. My girl,
ladies,
what me want you do?
Tick 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 tock. 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 Tick tick tock.
Yo, what me stuff me do?
Tock 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 tick.
Hey, baby.
Tock tock tick. Tock tock tick. Tock 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 tick. Tock 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 tick. Tick.
On commence quand vous voulez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Cinématalk, une émission consacrée aujourd'hui à trois réalisateurs de peu à très connus. Dans un premier temps et en dehors de toute actualité, je voudrais évoquer le travail du réalisateur Jean-Gabriel Perriot, seulement pour le plaisir de plonger dans son œuvre, une œuvre composée de nombreux courts et de deux longs métrages, dont le dernier, Une jeunesse allemande, a été plutôt bien repéré et diffusé dans les salles. Une œuvre politique, une œuvre coup de poing qui questionne et ça fait du bien. Dans une seconde partie, je donnerai la parole à Maxime Lachaud, critique de cinéma et programmateur, qui va évoquer deux soirées qui vont se passer la semaine prochaine, deux soirées autour de deux œuvres. On commence avec une soirée Twin Peaks le 23 mai à l'American Cosmograph, qui annonce une projection en avant-première de Twin Peaks Fire Walk With Me. Alors pourquoi en avant-première? On va lui poser la question. Suivi d'un film réalisé à partir de scènes coupées du film Twin Peaks The Missing Pieces. Une séance unique donc. Puis le lendemain, au cinéma Le Cratère, donc le mercredi 24 mai, Maxime poursuit ses séances obscures autour du réalisateur Paul Charitz. Alors, si vous ne savez pas qui est Paul Charitz, bien restez à l'écoute. On en saura plus tout à l'heure. Place maintenant à un autre univers, celui donc de Jean-Gabriel Perriot, un univers qui ne ressemble à aucun autre, puisque l'une des singularités de ce réalisateur est de travailler l'image d'archives comme de la matière vivante pour faire cinéma. Matière qu'il monte sans son et qu'il fait souvent dialoguer avec une musique choisie par ses soins. Comme donc ce morceau de Godspeed Your Black Emperor que l'on entend là tout de suite, précisément. Ce morceau, on l'entend aussi dans le court-métrage, l'un de ses premiers, le second, We Are Winning, Don't Forget, une succession d'images fixes qui débute par des images très banales de personnes installées à leur bureau, de photos de gens au travail, puis d'équipes de travail, toujours dans un cadre professionnel. Ensuite, on va sortir dans la rue et là, on passe à des photos de foule, de rassemblements, puis clairement de manifestations, de mains tendues et des chutes, des coups, des corps couchés immobiles, avec ce titre qui conclut « We are winning, don't forget ». On écoute pour se mettre dans l'ambiance ce morceau de Godspeed You.
Thank you.
Et son premier opus donnait déjà le ton. Son premier film, qu'il a réalisé 2 ans auparavant, en 2002, s'intitule sobrement 20 avril 2002. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Ce film mixe par un montage ultra rapide des images télé, des photogrammes de films, des pubs, des images pornographiques, des photos de famille. Un impact violent créé par ce film reflète la confusion et la saturation visuelle qui nous submerge aujourd'hui. Ce film est une réponse au soir du 21 avril 2002, premier tour des élections présidentielles françaises, où Jean-Marie Le Pen est arrivé en deuxième position. Il se trouve que c'est aussi la date de l'anniversaire de Jean-Gabriel Perriot. Pour comprendre un peu mieux ce personnage, on va écouter un portrait qu'a réalisé Arte TV à un moment où Jean-Gabriel Perriot a déjà plus d'une dizaine de films à son actif. Il évoque dans cet entretien précisément les films qui ont un rapport direct avec l'histoire, avec un grand H, Dies Irae, un court-métrage expérimental et poétique où les images du monde s'enchaînent vers une destination inconnue et inquiétante. Il évoque aussi Utel était criminel, où Jean-Baptiste Perriot utilise des images d'archives de l'été 44 et précisément des images qui montrent le rituel macabre des femmes tondues sur une musique qui n'est pas bien entendu anodine, la Marseillaise. Il évoque également Nijuman no Borei ou 200 000 fantômes, des images d'Hiroshima qu'il va puiser dans des fonds d'archives de 1914 à 2006. On écoute ce portrait tout de suite.
Jean-Gabriel Perriot travaille sur la mémoire. Il construit à partir d'images d'archives une œuvre de réflexion sur le politique et le statut de la violence dans nos sociétés. Portrait.
Un de mes premiers jobs quand je suis sorti de l'école, c'était de travailler à Beaubourg, au service audiovisuel. Et on m'a demandé de remonter une centaine de films d'architecture. Il fallait que je condense des films d'une heure en 3 minutes sur des thèmes très très précis. Et j'avais pas le droit à la voix off. Et j'avais le droit juste à un ou deux titres. Et c'était un exercice que je pensais impossible. Et en fait, j'ai réussi à le faire. Et du coup, j'ai découvert une certaine possibilité, en utilisant les archives, de faire autre chose, de se réapproprier totalement l'archive pour créer un autre film. Les archives sont jamais faites pour aller ensemble. Le travail de montage doit être encore plus précis ou aller plus loin parce que les images n'ont pas été faites pour être réunies à ce moment-là, quand elles ont été produites. Et tout le travail, c'est un travail de lien dans ces images-là. Et il y a de l'ellipse, forcément. Dès qu'on prend deux images différentes et qu'on les met ensemble, d'un coup, on raconte une histoire. If you look upon my face, you are watching now the devil. Mes premiers essais de films sont plutôt des choses plus contemporaines, sur des questions très, très politiques. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des vraies lacunes en termes historiques, qui m'empêchait de comprendre certaines choses qui se passent aujourd'hui. À un moment, j'ai fait beaucoup de films autour de la Seconde Guerre mondiale, et je crois que ça me parlait beaucoup, à la fois des guerres contemporaines. C'est des films que j'ai faits, je pense que la guerre de Yougoslavie était toujours en cours, on sortait du Rwanda, enfin voilà, des choses qui étaient très très violentes. Et ça me permettait de comprendre aussi comment le monde s'est reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. On vit toujours dans cet héritage-là, et comment on n'avait pas réglé certains problèmes qui étaient apparus pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment la destruction d'une grande partie de l'humanité, que ce soit au Japon, dans les camps, enfin partout, cette espèce de déchaînement de violence qu'on avait juste remis derrière, et qui ressort spontanément, régulièrement. Je passe par un travail d'historien dans la fabrication du film, parce que pour chaque film, je me plonge vraiment dans les lectures. C'est un travail presque très universitaire. J'ai aussi besoin de savoir d'où viennent les images, qui les a prises. J'ai besoin d'aller vraiment très très loin dans les questions historiques. Mais après, quand je transmets, ou dans le film que je transmets, ce travail est devenu invisible. Mais je sais que tout le savoir que j'accumule se retrouve d'une certaine manière dans le film. lieu de faire un documentaire très classique sur voilà ce qui s'est passé à telle date, j'enlève le commentaire, je reste dans l'image, dans les événements eux-mêmes, pour qu'ils soient racontés presque au présent. Et il me semble que c'est là que s'ancre quand même une manière politique de faire des films, c'est de pas de prémâcher le sens des choses que l'on donne et de laisser libre le spectateur. Et c'est vrai qu'on est très souvent peu libre face à ce qu'on lit, à ce qu'on voit.
If I could have one wish, as in the fairy tales, I would unmake my past.
En Hiroshima, on voit par moments que c'est Hiroshima, c'est écrit, mais il y a quand même très peu de choses. Dans Une telle été criminelle, par exemple, il est impossible de savoir ce qui se passe. Sauf évidemment quand on est français et qu'on connaît un peu l'histoire, mais pour les jeunes générations, pour les gens à l'étranger, il n'y a aucune possibilité de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'archives sur Internet. Et en même temps, moi, comme je travaille sur des archives ou des thèmes plutôt très serrés, Internet n'est pas forcément le bon outil. Parce que les images qui sont disponibles sont souvent d'assez mauvaise qualité, ou elles ne sont pas forcément libres de droit, et que je fais souvent des films, oui, sur des sujets très précis qui nécessitent une recherche. Il faut quand même aller chercher les images. Et ça, Internet, à un moment, a des limites, parce que les propriétaires des images ne les balancent pas gratuitement en ligne.
We are black. Our noses are broad. Our lips are thick. Our hair is nappy. And we are beautiful. And we are beautiful. And we are beautiful. And we are beautiful. Yes. And we are beautiful. And we are beautiful.
Alors le dernier son que l'on entend, c'est un extrait du film The Devil. The Devil, c'est 7 minutes d'images d'archives sur les Black Panthers, sur fond de musique post-punk. Une pure injection d'énergie politique, sans voix off, ni aucun renseignement, sur les jeunes leaders du mouvement afro-américain. Le film réalisé en 2012 commence par une succession de plans serrés sur des visages d'enfants noirs, tandis que l'on découvre en boucle l'étrange refrain du chanteur des Boogers « If you look upon my face, you are watching now the devil. » Si tu regardes mon visage, tu vois le diable. Puis les petits deviennent grands et les jeunes hommes et les jeunes femmes grondent de plus en plus fort, pointent du doigt, menacent. Ils sont des monstres, dit-on. L'insulte qui leur est adressée, ils l'encaissent. Et ils en font leur étendard. On écoute, juste pour ressentir cette énergie, le titre de Boogers, The Devil.
If you look upon my face, you are watching now the devil. If you look upon my face, you are watching now the devil.
If you look upon my face, you are watching. You are watching now the devil.
Jean-Gabriel Perriot s'inscrit dans l'héritage de Vertov, dit-il, et de l'idée d'un cinéma qui se suffirait à lui-même, qui utiliserait ses propres outils comme moyen d'énonciation, sans avoir recours à des outils qui ne seraient pas typiquement cinématographiques. C'est l'idée d'un cinéma par défaut très politique. Pour lui, on a plus de facilité à partager avec des spectateurs une histoire en images qu'une histoire mise en mots. Le langage peut séparer si on ne connaît pas la langue qui est prononcée, si on ne saisit pas complètement le niveau de langage employé. L'image, elle, parle à tout le monde. On n'a pas tous les mêmes références par rapport à ce que l'on voit. Mais malgré tout, il y a plus de commun dans le voir que dans le parler. Jean-Gabriel Perriot ne donne pas d'informations pédagogiques dans ses documentaires car il ne souhaite pas contextualiser ses films ni enfermer ce mouvement dans un passé qui serait révolu. Les dangers sont toujours présents, suggère-t-il dans The Devil. L'un des personnages crie « N'oubliez pas mes derniers mots, je suis un révolutionnaire ». La phrase sonne en effet comme un slogan universel et trouve une résonance très forte dans l'actualité internationale. Dans mes films, je ne donne pas de réponse, dit-il. Je suis déjà content quand j'arrive à poser les questions. Dernièrement, Jean-Gabriel Perriot s'est intéressé à l'histoire de la RAF, épluchant les archives, s'informant sur leur leader, Ulrich Meinhof, Andreas Bader. Le destin tragique de ce groupe armé devient le sujet de son premier long métrage, un documentaire juxtaposant trois types d'archives, reportages de journaux télévisés, films militants réalisés par les membres de la RAF eux-mêmes et films d'auteurs. On l'écoute lors de son passage dans l'émission La Grande Table sur France Culture au micro de Caroline Brouet.
Mais est-ce qu'il est possible de faire des films en Allemagne aujourd'hui?
Alors c'est bon.
C'est impossible d'un point de vue même philosophique. Enfin, en gros, l'idée, c'était plutôt, quand je partais sur l'idée, c'était de... Est-ce qu'il est possible de faire des images en Allemagne?
Est-ce qu'il est possible en Deutschland zu
machen? Je veux dire, est-ce qu'il est possible d'avoir l'image au sens de l'imagination? Mm-hmm. En gros, est-ce qu'un Allemand est capable de faire une image puis on verra à la fin du film si c'est oui ou si c'est non.
La réflexion sur les liens entre cinéma et politique et sur le pouvoir des images qui nous a été inspirée par un film, un excellent documentaire sorti en salle le 14 octobre intitulé « Une jeunesse allemande » qui débute par cette voix de Jean-Luc Godard. Le réalisateur est avec nous, Jean-Gabriel Perriot. Bonjour.
Bonjour.
Je disais que cette émission nous avait été inspirée d'abord et avant tout par ce film « Une jeunesse allemande ». « Une jeunesse allemande » comporte deux aspects passionnant. D'abord, il s'agit, Jean-Gabriel Perriot, d'un film qui se concentre sur l'histoire de la fraction Armée Rouge, ce groupe terroriste d'extrême gauche ouest-allemand, qui a œuvré dans les années 70, qu'on a désigné en France sous son acronyme RAF, R-A-F, et qu'on a plus communément appelé la bande Abader, du nom de l'un de ses membres. Ça, c'est le premier aspect. De 1965 à 1977, vous nous montrez comment est née cette bande Abader, qui étaient les membres de cette bande Abader et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus des terroristes. Et puis il y a un autre aspect qui est passionnant, c'est que vous nous racontez cette histoire, en images. Ce ne sont que des images d'archives. C'est aussi, et c'est par là d'ailleurs, une réflexion sur les images qui débute donc par ces mots de Jean-Luc Godard, qui s'achève, et on verra plus tard, par un extrait d'un film de Fassbinder. Pourquoi avoir débuté par cette voix de Jean-Luc Godard et par ce qu'il dit d'ailleurs?
Ben, je voulais peut-être commencer le film sous les auspices du cinéma et du coup de faire une introduction au film qui désaxe un peu l'attente du spectateur, parce que du coup on va voir un film sur la RAF et on commence par Godard qui parle du cinéma. Et du coup, ça permet tout de suite de se dire, voilà, tiens, ça va être un peu plus... ça va pas être seulement sur la RAF, mais quelque chose va déborder du sujet. Et j'aime beaucoup ce que dit Godard, même si je suis en opposition avec ce qu'il dit, mais est-il possible de faire des images aujourd'hui en Allemagne, en 74, donc dans un moment très tendu de l'Allemagne, pendant les années de plomb, qui se réfère à est-il possible d'écrire un poème après Auschwitz. Moi, je pense qu'on peut toujours faire des images, même qu'il faut en faire. C'est toujours nécessaire, mais j'aimais bien que, voilà, poser la question par Godard. Est-il possible d'en faire? Moi, je postule que oui, mais je trouvais ça important d'amener cette question. Il n'y a pas d'évidence à ce qu'on puisse faire des images sur tout. Et au moins Godard a la clarté de poser la question.
C'est intéressant que vous disiez qu'on peut toujours en faire parce que vous avez choisi de ne pas en faire vous-même, en l'occurrence, oui. Puisque le film est fait avec les images des autres. Oui. Et en particulier, d'ailleurs, les images produites par eux-mêmes. Parce que c'est l'un des intérêts majeurs de ce film, c'est de montrer que ces gens-là, qui ont été ensuite parmi les plus importants dans la bande à Bader, alors Ulrich Meinhof, par exemple, ou Holger Mainz, ou même Andreas Bader, étaient des gens d'image. Oui. Racontez-nous ça, Jean-Gabriel Perriot.
Ben, c'est ce qui fait que d'un coup, pour moi, cette histoire devient un film possible. C'est parce que dans les hasards de leur histoire, plusieurs des membres importants qui vont créer le groupe ont une histoire, ont à voir avec les images, soit comme producteurs d'images directement, comme réalisateurs, soit vont apparaître dans des images, principalement télévisées, parce que ce sont des petites figures de la société ouest-allemande de l'époque, comme Meinhof ou Mahler, et qui du coup ont le droit, de manière très étonnante a posteriori d'aujourd'hui, au plateau télé, et même très souvent, ils ont le droit au plateau télé, donc du coup, il y avait comme ça une masse d'archives existante qui permettait de raconter leur histoire par eux-mêmes d'une certaine manière et de du coup de revenir sur leur point de vue sur le monde. Les années passant, le film étant chronologique, on voit la transformation de leur point de vue, de leur langage, on voit quelque chose se jouer que permettaient ces images-là, ce qu'ils avaient produit eux-mêmes.
Et on terminera cette évocation par un chant, celui de prisonnier que l'on entend dans « Nos jours absolument doivent être illuminés », un film réalisé en 2011 qui est le résultat d'un travail à la maison d'arrêt d'Orléans. Le 28 mai 2011, des détenus ont chanté depuis l'intérieur de la prison, tandis que le public est venu les écouter de l'autre côté du mur.
Alors
pour terminer, je vous invite à aller regarder tous ces films qui sont, tous les courts-métrages, on peut les visionner sur le site internet de Jean-Gabriel Perriot. On peut aussi lire des interviews de lui, des textes qu'il a écrits. Une adresse, www.jgperriot, comme Jean-Gabriel Perriot. .net. Bien entendu, tous les liens seront sur Cinématoc. Et pour introduire cette seconde partie, allons puiser dans la magnifique bande originale de Twin Peaks.
Thank you. Eh bien, bonjour Maxime.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien, je viens te voir pas pour rien, puisque tu proposes deux événements la semaine prochaine, mardi et mercredi. Et en plus, tu m'as dit que t'aimais beaucoup Jean-Gabriel Perriot, que l'on vient juste d'entendre en première partie de cette émission, donc ça tombe bien, on est raccord.
Ben, j'avais programmé son film « Une jeunesse allemande », et puis même dans le cadre des courts-métrages, des barbares qu'on fait avec le Fifi Gros, on avait passé quelques-uns de ses cours, assez drôles.
Ouais. Et tu m'as même appris que son prochain film sort cet été chez Potemkin.
Voilà, il sort a priori le 30 août.
Donc il y a bien une actualité, je ne le savais pas, donc voilà. Je l'apprends. Je te remercie.
Et apparemment, ça va être quelque chose d'assez nouveau. On va découvrir.
On en reparlera. Et alors, avec toi, on peut commencer une semaine à partir de mardi, une semaine de cinéma avec Maxime, et pour un rendez-vous. Alors, c'est un peu troublant parce qu'on annonce Twin Peaks en avant-première. C'est parce que c'est une copie neuve.
C'est une copie restaurée en 4K et supervisée par David Lynch à partir des négatifs originaux. Donc c'est vrai que oui, j'ai vu, ça traîne avant-première, mais le film il date d'il y a 23 ans.
C'est l'avant-première
de la version restaurée, ouais. Qui ensuite sera repris à l'American Cosmograph à partir du 31 mai.
Mais d'accord. Alors tu proposes donc un coup double, la version restaurée est validée par David Lynch à 19h30, Twin Peaks Fire Walk With Me, puis... Ensuite, The Missing Pieces, qu'est-ce que c'est?
Oui, alors l'idée, vous avez dû l'entendre, donc il y a la série qui va reprendre pour une troisième saison, donc cette série mythique qui avait complètement chamboulé le monde de la télévision, parce que c'était du jamais vu à l'époque, on était au tout début des années 90. Donc voilà, David Lynch, lui, il était au sommet un peu. Hein, il avait eu la Palme d'Or pour Sailor et Lula. Il venait de finir la Symphonie industrielle, qui était un gros spectacle avec Julie Cruz. Donc, il était déjà dans la musique à l'époque, ce qui continue aujourd'hui. Et donc, il avait fait cette série, donc il va reprendre. Il y a énormément de gens qui sont complètement fébriles. Donc, la première aux États-Unis se fera le 21 sur Showtime, donc c'est le dimanche. Hein. Et ça sera repris sur Canal+, à partir du 25, il me semble bien.
Le 25, ça sera aussi une soirée à Cannes à 19h, je crois. Il y a une projection qui est prévue pendant le festival.
Voilà, donc David Lynch est invité avec quelques-uns des acteurs, donc ça devrait être assez formidable. Et vu que David Lynch, il a dit qu'il ne ferait plus jamais de cinéma, qu'il appartient à une autre époque, et qu'à son époque, on faisait les films en 35 mm, eh bien, la série a été tournée en 35 mm, et c'est fort probable qu'elle passe à Cannes... sous format 35 mm. Donc ça peut être vraiment assez magique. Ouais, ouais. Et donc pour cette nouvelle saison, a priori, ces deux œuvres, on va en parler, qui sont très particulières, qui sont d'une part le film Fire Walk With Me et d'autre part les Missing Pieces, apparemment sont très importantes pour la suite des événements. Parce que c'est quand même Twin Peaks, c'est quand même beaucoup d'intrigues, beaucoup de mystères non résolus, souvent. Et c'est surtout une atmosphère. Et donc, l'idée de cette soirée, c'était déjà de passer 4 heures dans l'univers de Twin Peaks, d'échanger autour de ça, de le voir aussi comme une expérience, parce que pour moi, quand je l'ai vu ado à la télé, c'est vraiment une expérience collective. On sortait pas tant que l'épisode n'était pas passé sur la 5. Après, on se retrouvait au bar, et là, tout le monde parlait pendant des heures de ce qu'il avait ressenti. Parce qu'évidemment, c'est aussi... parfois, l'esprit part, et chacun interprète, et c'est ça la force de David Lynch aussi. Et donc, c'est retrouver un peu ça, avec ce côté vraiment événement autour de D'une part, la redécouverte de Firewalk With Me, qui est un film magnifique, qui est peut-être un des films les plus sombres de David Lynch, sur lequel il s'est vraiment intéressé donc aux sept derniers jours de la star de la série, mais qui en fait meurt avant même que les épisodes commencent, c'est Laura Palmer. Et donc sa fille avait écrit un livre qui s'appelait Le journal intime de Laura Palmer, et il s'était basé là-dessus pour raconter ces sept derniers jours, qui parlent au bout du compte d'inceste et d'infanticide, mais au bout du compte avec une telle véracité qu'ils avaient reçu plein de lettres à l'époque de gens qui avaient vécu ça, qui avaient été complètement troublés par ce film, qui a ce côté réaliste d'un côté, et d'un autre côté qui est un pur chef-d'œuvre du gothique américain. C'est-à-dire on va retrouver toute cette esthétique, ces thématiques de l'innocence perdue, ces décors de forêt américaine presque à la Hawthorne, ou ces banlieues-là, à la Halloween, ces banlieues pavillonnaires, et toutes ces thématiques qui sont celles du double, de la maison hantée, du villain, de la figure tyrannique aussi, mais schizophrène aussi, parce que tout le monde est double aussi dans le film Firewalk With Me. C'est un film très très riche, et aussi c'est à la fois c'était un retour quand il est sorti en 92 à quelque chose de plus expérimental, ce qui faisait du temps de Eraserhead. D'ailleurs, quand on le re-regarde, on s'aperçoit que la fin d'Eraserhead et la fin de Firewalk With Me sont extrêmement proches. Et en même temps, c'est un film qui contient déjà en germe tout ce que va être le cinéma de David Lynch après. On a déjà Mulholland Drive et on a déjà tout Inland Empire dans ce cauchemar à la fois totalement intime et totalement cosmique d'une jeune femme. Donc, redécouvrir ce film, c'est très important, je pense, parce qu'il a été quand même très très critiqué à l'époque. Les gens voulaient voir la série, mais dès le premier plan, en fait, il brise un écran de télévision, parce que le but, c'était justement de proposer autre chose. Lui, il était tombé amoureux du personnage de Laura Palmer, et il voulait faire quelque chose avec elle. Donc c'est vraiment un film entièrement tourné sur elle.
Tu veux dire que, en fait, en tournant la série, il se prend au jeu et finalement...
En fait, il est tombé amoureux et de Laura Palmer et de la petite ville de Twin Peaks. Et il ne voulait pas les quitter comme ça quand la seconde saison s'est arrêtée. Il était vraiment rentré totalement là-dedans. Après, quand on connaît son parcours et tout, on comprend tout. Enfin, quand on voit sa biographie, bon, on ne peut pas aller dans les détails, mais c'est... Forcément, il y a des choses extrêmement intimes qu'il a mis dans ce personnage et dans ce lieu surtout. Et d'ailleurs, le lieu, c'est quand même quelque chose qui a toujours été très très important chez lui, ce décor typiquement américain de la petite ville moyenne. Et avec toujours ce qui est intéressant, qu'on va revoir la série, mais ça n'évolue pas. Donc moi, je vois très bien les personnages rester comme ils étaient à l'époque, mais avec les rides en plus, et espérons pas trop de Botox entre-temps, parce que bon, les acteurs américains... Donc ça, c'est pour Firewalk With Me, et le jumelé avec The Missing Pieces, c'est tout simplement qu'à l'époque où il avait fait Firewalk With Me, le film durait 4 heures. Et les producteurs lui ont dit... Alors c'était Bouygues, à l'époque, qui tenait la première chaîne de télévision française, une personne extrêmement riche, il avait donné 10 millions à David Lynch, il lui avait dit « tu fais ce que tu veux ». Donc il a fait un film de 4 heures, et donc ils ont enlevé toutes ces scènes, mais qui étaient totalement finalisées, parce qu'elles étaient dans le montage final. Et au final, ils en ont fait un film de 2h15, donc en se focalisant sur l'histoire de Laura Palmer, avec un prologue d'à peu près une demi-heure, dans lequel on trouve David Bowie, Chris Isaac, plein de personnages qui n'étaient pas dans la série. Et Missing Pieces est intéressant, parce que donc, voilà, il y a ce prologue à Deer Meadow, où il y a eu le meurtre de Teresa Banks un an avant celui de Laura Palmer. Et donc ensuite, il y a l'histoire de Laura Palmer à Twin Peaks. Et les Missing Pieces vont nous en dire beaucoup plus sur ces personnages qu'on va rencontrer à Deer Meadow. On va voir un peu plus David Bowie, on va comprendre un peu mieux qui sont, on va avoir un peu plus de clés quand même pour comprendre tout ça. On va voir aussi Laura Palmer d'un quotidien un peu moins tourmenté, un peu plus sa relation avec sa mère, etc. Donc c'est énormément de clés hyper importantes qui sont données à travers ces Missing Pieces et qui ne sont sorties en salle qu'aux États-Unis en 2014, donc très récemment, c'était il y a 3 ans à peine. Donc David Lynch avait refait un travail là-dessus pour le sortir en salle, dans des festivals, tout ça.
C'est lui qui a monté les Missing Pieces.
Voilà, exactement. Et ça se regarde vraiment comme un film, même si ce sont des scènes qui ont été enlevées du montage. Et alors le voir en plus après Firewalk With Me, qui a un côté assez éclaté, avec des narrations qui s'imbriquent, des mondes comme ça qui s'entrepénètrent, je pense que ça peut faire un truc assez, assez fort d'avoir les deux en même temps, comme si on mettait toutes les pièces du puzzle là, une seule soirée.
Et le fantasme de la réunion entre Twin Peaks a augmenté des missing pieces. Ça n'existera jamais. On pourrait s'amuser à le faire nous-mêmes. Est-ce que ça aurait un sens de voir la version de 4 heures, quoi.
Eh bien, figure-toi. Alors, a priori, il y a des fans de YouTube et ces geeks un peu de l'informatique qui auraient fait un montage à partir de tout ça.
À chercher, quoi.
Donc ils auraient... Et alors ça doit exister de manière totalement pirate, mais ça existe. Il y a des fans qui ont remonté le film tel qu'il devait être à l'origine. Ça peut être assez sympa, mais c'est pas David Lynch non plus. Donc sais pas qui peut se mettre dans la tête de ce bonhomme non plus.
Ouais, le mieux, ça pourrait être de suivre les deux et de se faire sa propre combinaison a posteriori en rentrant chez soi. Voilà.
Et là, ce qui est assez génial, c'est que, a priori, on est les seuls en France, il n'y a qu'à Toulouse, qu'on va faire cette double projection. Donc, c'est vraiment super.
Ouais, un événement, quoi.
Que ça puisse se faire. Du coup, ça a vraiment valeur d'événement.
Et en plus, tu m'as dit que vous auriez certainement des goodies.
Ah oui, parce que c'est Potemkin Film. Et la dernière fois, on avait fait une soirée, Eraserhead et le documentaire The Art Life, sur les années de jeunesse de Lynch. Et ils avaient aussi envoyé pas mal de cadeaux assez délirants. Il y avait des masques, des posters... Et là, pareil, il va y avoir des... A priori, mais il va y avoir des livrets, des boîtes d'allumettes, des posters. Wow. En plus, je ne sais pas si vous avez vu le poster de Firewalk With Me, il est sublime.
Donc, il faut se précipiter, quoi.
Parce qu'il y a être... C'est un événement à tous les sens du terme, quoi.
Et après, moi, j'ai une question un peu plus personnelle. T'attends quoi, toi, de cette 3e saison de Twin Peaks? Est-ce que t'as un peu d'impréhension?
Ah ben c'est bizarre parce que du coup moi j'ai pas revu Twin Peaks depuis que c'était passé à la télé donc il y a très très longtemps et j'ai voulu garder mes souvenirs parce qu'ils sont plutôt bons donc j'ai pas du tout revu. J'ai revu le film forcément par rapport à cette ressortie. Ça m'a énormément ému. Je trouvais les acteurs extraordinaires. Il y avait des castings de fous. Ils étaient super bons. Et c'est d'un niveau... avec toujours Lynch qui travaille sur les émotions. Alors d'un côté, je vais dire que j'en attends rien. Mais je sais que forcément, ça va me faire quelque chose. Donc... je pense que je le regarderai, oui, avec avidité.
Bon, merci. On va passer au second événement, donc le lendemain. Tu choisirais quoi comme musique pour introduire Paul Charitz?
Quelque chose d'assez d'assez dur et psychologique. Ça serait pas du tout comme Lynch. Je verrais des musiques très veloutées, mystérieuses, voire un peu inquiétantes, mais assez éthérées. Charisse, je mettrais tout le contraire, quelque chose d'assez bruyant, d'assez épileptique et d'assez tourmenté. Après, il faut trouver.
Il faut trouver, on essaie d'être à la hauteur.
Thank you.
sera Slayer avec Raining Blood.
Je ne connais pas Paul Charit, je n'en ai jamais entendu parler. Je vois que tu proposes donc une séance avec un documentaire pour découvrir qui il est et des courts-métrages. Je vois que cette séance, donc, c'est le lendemain, le 24 au cratère, elle se fait en partenariat avec le musée des abattoirs, donc ça me met quand même une petite puce à l'oreille en me disant qu'on est plutôt là du coup. Bon, d'ailleurs, David Lynch a commencé sa carrière aussi par une école d'art.
Ah oui.
Il y a quand même des liens. Mais du coup, qui est Paul Charit?
Alors, Paul Charit, c'est un artiste qui est né à Denver, dans le Colorado, qui a émergé dans les années 60 et qui est devenu une figure. Alors, à l'époque, il y avait tout un cinéma expérimental qui commençait aux États-Unis, qu'on appelait le mouvement structuraliste. Donc c'était des gens comme Tony Conrad, dont on connaît plus la musique que les films, mais qui travaillaient sur le Flickr notamment. Alors qu'est-ce que c'est le Flickr? Je sais pas s'il y a des épileptiques dans les auditeurs et tout ça. C'est ce genre de film où on dit toujours, si vous êtes épileptique, ne rentrez pas dans la salle. Donc c'est des techniques très très particulières de travail sur la découpe d'images et surtout sur la perception. Et Paul Charit s'est beaucoup intéressé au cerveau humain et à la manière dont on perçoit le médium. Ça va au-delà du cinéma. On est presque dans l'installation artistique. On est totalement dans l'expérientiel. C'est des choses à voir impérativement en salle. Et il se trouve que j'avais passé un film de Paul Charit l'année dernière pendant le Figaro au Théâtre Garonne. C'est un film qui se nomme Razor Blades. Et c'était un film qui était fait sur deux écrans. Donc ça, c'est le genre de choses que Paul Charit faisait souvent. Il y avait des dispositifs qui allaient avec les films. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut regarder sur une télévision et c'est, je dirais même que c'est quelque chose à vivre avec les gens, parce que le temps s'arrête, hein, on n'est plus que dans le ressenti et dans comment on va percevoir les images et les couleurs surtout aussi, et les sons. Les couleurs, je dis ça parce qu'il a travaillé sur toutes les couleurs. C'est sûrement le cinéaste le plus coloré du monde. Et en même temps, malgré toutes ces couleurs, le jaune, le bleu, le rouge, le vert, tout ça, son cinéma est d'une noirceur et d'une violence, parce que dans les images qu'il propose, et ça, on les découvrira en voyant le documentaire qui explicite bien sa vie. Donc Paul Charit, c'était bipolaire. Il a lui-même essayé d'attenter à ses jours plusieurs fois. Il s'est fait lui-même tirer dessus par accident. Donc il a vécu vraiment totalement marqué par... il a failli mourir plusieurs fois. Et dans ses films, il y a quelque chose de l'ordre de... parfois, il nous met presque en position de malade, de quelqu'un qui connaît la bipolarité, il travaille vraiment, il nous met dans des mondes parallèles. C'est là où, quelque part, peut-être on pourrait le rapprocher de Lynch, mais d'une manière beaucoup, beaucoup moins veloutée. Et donc, Paul Charitz a été d'emblée, dès les années 60-70, où c'est le gros de son œuvre, où c'était que des formats courts, hein, en 16 mm, il a été d'emblée reconnu dans le milieu des arts visuels comme vraiment un visionnaire. Son cinéma, il n'y avait rien d'identique avant, il n'y a rien eu d'identique après. Stan Brakhage, qui est un peu plus connu dans le cinéma expérimental, a été vraiment son mentor et l'a vraiment un peu pris sous son aile et tout ça. Et voilà, on est vraiment dans un des plus importants cinéastes de l'avant-garde américaine. D'où ce partenariat que j'ai proposé aux abattoirs, parce que forcément, voilà, on fait ces partenariats plutôt en termes de communication, mais parce que forcément leur public doit voir, à mon avis, ce cinéaste, donc, qui est très rare, vu que d'après les infos qu'on m'a données, on n'a pas passé du Paul Charitz à Toulouse depuis les années 70.
Incroyable.
Donc ça, je le fais dans le cadre des sciences obscures, dont le but est justement de passer des films inédits, ce qui est le cas du documentaire canadien, donc, de François Miron. Mais c'est du canadien normal, hein. C'est pas avec un accent où on comprend rien, hein. Donc c'est du canadien tout à fait compréhensible. Et François Miron, qui lui-même, donc là c'est un documentaire, mais lui-même vient d'un cinéma expérimental très influencé par Brakhage, dont il y a aussi une histoire d'amour entre ces deux cinéastes. Dans la soirée, c'est simple, on va d'abord passer des cours, on en passe trois. C'est des expériences assez denses, comme je le disais. Donc on va faire une pause, il y aura un petit buffet, enfin, on fait toujours dans l'événementiel un peu sympa. Donc il y aura un petit buffet, histoire de se remettre. Et ensuite on ira sur le documentaire pour un peu mieux comprendre qui est l'étrange énergumène qui fait ce cinéma à la fois d'une beauté, parce que c'est extrêmement... beau et presque émouvant. Et en même temps, c'est un cinéma qui peut mettre mal à l'aise.
Donc, les spectateurs sont accompagnés, quoi. On les prévient, voilà. On peut sortir.
Si bien sûr, ils ne seront pas pris en otage. Mais quand j'en ai projeté, pourtant, Razorblade, il dure une bonne vingtaine de minutes. Les gens n'ont même pas vu le temps passer parce qu'on est dans l'hypnose. Il travaille sur l'hypnose et il travaille sur notre cerveau, on ne maîtrise rien. Donc ça, c'est assez fascinant. C'est assez dur à décrire, son cinéma. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, presque comme Lynch, je veux dire, même si sur Lynch, il y a 3000 bouquins, mais je suis vraiment curieux de voir comment les gens vont le vivre. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose à voir quand on est jeune. Ce genre de truc, moi, j'aurais adoré voir ça quand j'avais 16, 17, 18 ans. Parce que ça ouvre des perspectives, je trouve.
On va terminer cette émission avec toi, je te remercie.
Bah ouais, je vais être un peu fatigué après les deux.
Ouais, c'est possible.
Et d'ailleurs, on peut noter quand même, parce qu'il va y avoir d'autres événements dans le même genre en juin, là, on n'arrête plus, pour la fête de la musique. Alors, il y en a plein, ils se plaignent, ouais, des fois, il n'y a que des groupes pourris, tout ça. Et bien, en fait, au cratère, on va faire carrément toute une fin d'après-midi soirée autour d'un cinéaste extrêmement mélomane, qui est un cinéaste britannique du nom de Derek Jarman. Donc Derek Jarman, peut-être un de ses films les plus connus, c'est Jubilé, qui est considéré comme le plus grand film sur le punk.
Qui a été passé au dernier FIFI.
Voilà. Et là, on va passer trois de ses films. Last of England, qui est une œuvre magnifique. Là, avec la musique, c'est un peu sur la... les séquelles de l'ère Thatcher en Angleterre, parce que Derek Jarman, c'est quelqu'un qui était un écorché vif, qui est mort du sida, qui était un artiste hyper actif, et qui était aussi un artiste en colère. Et donc ce film-là, il est vraiment fascinant, et donc on les a choisis parce que c'est des films très musicaux. Donc là, il y aura la musique de Simon Fisher Turner, de Marianne Faithfull, de Diamanda Galas... De plein de noms, super bien, Barry Adamson, tout ça. Et on passera aussi son premier long métrage, que j'adore, qui est très rare, qui s'appelle Sébastien, qui est une réinterprétation de l'histoire du martyr de Saint-Sébastien, donc grande aussi figure de la Renaissance italienne et de l'iconographie gay. Et c'était la première musique de film de Brian Eno. Donc, ambiance très cosmique, où là, c'était la période où Brian Eno partait vers les synthés, les ambiances. Il initiait l'ambiance, en fait, à l'époque. Et là aussi, c'est un film trip. Ce sont tous des films trip, là, les films de Derek Jarman. Surtout Last of England et Sébastien. Bon, Jubilé en côté plus manifeste, avec quelques restes d'orange mécanique. Mais franchement, dans le genre, si vous aimez les mondes parallèles et les cinéastes assez délirants, Paul Charitz et Derek Jarman, c'est d'autres cinéastes hyper importants à découvrir d'urgence. Parce que Derek Jarman, on sent Ken Russell, on sent Peter Greenaway, on sent Sally Potter, on sent beaucoup le cinéma anglais, après qui est venu avec les années... 80 et tout ça. Hein. Lui-même avait commencé chez Ken Russell dans le film Les Diables.
Ah oui.
Donc, il avait commencé déjà au niveau en termes d'anarchie et de punkitude.
Eh bien, merci beaucoup. On va terminer donc avec tous ces rendez-vous. Mais ouais. Je rappelle quand même les plus proches, mardi 23 mai et mercredi 24. Mardi 23 à l'American Cosmograph, ouais. Mercredi 24 au cratère et le 21 juin au cratère également. Eh bien, je te dis à très bientôt, Maxime. Je te remercie.
Ben, merci à toi. Ouais.